Et bonsoir et bienvenue en direct de la mezzanine pour la première radio Girol de l'année, bien entendu en retard et surtout avec encore une fois comme à notre habitude chez Girol, la moitié du matos parce qu'on a tous oublié nos casques et donc on n'a pas de retour, on fait ça au vu mètre à l'ancienne. Si jamais il y a du son qui marche pas bien et que vous êtes sur l'IRC, irc.freenote.net, le salon dièse Girol, faut pas hésiter à venir nous le dire. Voilà, je suis avec Duponin, bonsoir Duponin.
Bonsoir Iphaz.
Et avec Isa. Bonsoir Isa.
Bonsoir Iphaz.
Voilà, on va parler de plein de choses. On va commencer avec l'habituel agenda. Nous viendrons ensuite avec une petite section news parce que l'été ayant passé, nous avons plein de choses à annoncer. Nous parlerons ensuite de trois choses. La première, c'est on commentera une petite news sur LinuxFR qui nous parle d'un ordinateur modulaire Made in Strasbourg. Un projet qui a l'air intéressant, surtout à une époque où on croule sur les déchets et où la planète est devenue un enjeu majeur si l'humanité veut continuer à survivre. Nous parlerons aussi du Fairphone 3 qui est sorti. Fairphone, ce téléphone qui se veut respectueux des humains, de l'environnement et facilement réparable, toujours l'écologie. Et nous parlerons de l'écologie de notre cher gouvernement qui préfère, lui, instaurer un système de reconnaissance faciale pour s'identifier auprès des services publics, s'identifier en ligne. Un projet qui fait peur à plein d'associations de défense des libertés et pas que sur Internet. Mais en attendant, comme je vous l'annonçais, nous allons commencer par parler agenda avec Isa.
Je vais essayer parce que mon écran est tout petit, hein, c'est un smartphone, donc, et puis il se connecte quand il veut. Alors, s'il veut bien se remettre à l'endroit déjà pour commencer. Mets-toi en portrait, pas en paysage, je suis bien embêtée. Voilà, ça y est, ça va mieux. Vous avez tous mes déboires en live. Alors, l'agenda. Bon. Donc, nous avons déjà la Bulle qui a présenté son programme du second semestre. Et alors, moi, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans, mais nous avons un lien que vous pourrez retrouver, je pense, plus tard lorsqu'on fera un résumé. On a Fiaki Le Net, l'agenda de la mezzanine, mais il y a des trucs qui sont déjà périmés. C'est ce que j'avais vu dans les épisodes, enfin, en lisant l'agenda. C'est-à-dire que les permanences, c'est tous les mardis, mais apparemment, c'est que pour les adhérents.
Le premier mardi du mois est ouvert à tout le monde, c'est les portes ouvertes d'Aquilnet. Et on peut noter en plus qu'Aquilnet héberge tous les deuxièmes lundis du mois une petite permanence atelier OpenStreetMap pour les gens qui veulent rencontrer un peu des gens d'OpenStreetMap.
D'accord. Donc moi, c'est ce que je vois sur l'agenda est donc erroné. Hein, c'est ouvert à tout le monde.
OpenStreetMap, oui.
Non, mais la permanence tous les mardis.
Tu peux venir.
C'est le premier mardi du mois.
Le premier mardi du mois, c'est les portes ouvertes.
Ok.
Et le reste, c'est pour les adhérents d'Aquilnet.
Les adhérents, ou même si tu as besoin de passer, tu peux quand même occasionnellement.
Ok. Très bien. C'est plus clair. Du coup, ensuite, nous avons des news de Cubal.
La Cubal, qui est l'association bordelaise des utilisateurs et des contributeurs à Wikipédia.
Voilà. Donc, le samedi 26 octobre, il y aura une Wikipermanence consacrée en priorité à la valorisation des fonds patrimoniaux régionaux et au fonctionnement de cette encyclopédie collaborative. Donc, vous avez donc de 10h à midi, de 10h30 pardon, à midi rendez-vous au premier étage de la bibliothèque Mériadec, espace actualité. Présentation de Wikipédia, atelier à la demande comme utilisation de Séléné ou de Gallica et reproduction de livres anciens. Voilà, c'était le programme de cette réunion de la Cubal. Le 26 octobre, ensuite, nous avons OpenStreetMap donc, qui organise une rencontre de ses contributeurs. Et ça se tiendra le deuxième lundi du mois, en début de soirée, 19h. Et je pense que du coup, ça devait être cette semaine, puisque le deuxième lundi du mois, oui. Il est passé.
C'était lundi, là.
Voilà, donc c'est donc une news qui est un peu rassie. Ensuite, on a Unbi, qui est donc une association, si je ne me trompe pas, Unbi, qui est...
C'est de promotion du logiciel
oui,
libre.
Oui, mais ils sont à Mérignac, c'est
ils
ça
ils sont à Mérignac, voilà. Exactement.
Et donc, qui fait sa permanence le 8 novembre à l'école élémentaire du Burk. Et oui, en effet, Mérignac. À savoir aussi que Unbi vend des ordis reconditionnés au profit de l'association. Le prix est libre, sans disque dur. Sinon, au prix du disque dur.
À minima.
Au minima, voilà. Si vous en avez besoin, il faut les contacter avant. Donc, vous avez par exemple un ordinateur de bureau complet, tour, clavier, souris, écran, un Dell 620GX, 2Go de RAM DDR2, point d'interrogation, DVD, 7 ports USB. Vous avez ensuite OS Xubuntu, utilisation bureautique. Ça, c'est s'ils ont mis un DD, évidemment. Voilà, et donc, si ça vous intéresse, contact à unbi.fr. C'est le mail. contact@unbi.fr. Ensuite, nous avons le samedi 26 octobre un atelier hack domotique. Comment faire ce qu'on veut avec nos appareils connectés. Et oui, pas toujours facile de faire ce qu'on veut avec. Donc, c'est le samedi 26 octobre de 10h à midi et c'est ouvert à tous. Et c'est toujours par Unbi. Voilà, l'école élémentaire du Burk, 15 rue du Général Wigand à Mérignac. Voilà. Il y a une erreur sur le site pour l'adresse. Petite info. Voilà, voilà. Ensuite, on va attaquer les...
L'actualité.
L'actualité.
La première actualité, effectivement, c'est la sortie de Pléroma.
Oui, Pléroma est sorti en version stable 1.0 durant cet été. Et ça fait plaisir, un petit logiciel de la Fétiverse qui, même titre que Mastodon, Diaspora, il me semble.
Je suis pas sûr pour Diaspora.
Diaspora, non, je crois que ça passe par son propre protocole.
Mais PixelFed.
PixelFed, même si ça a toujours du mal à être fédéré. Et oui, Pléroma est donc passé en version stable. Ça fait plaisir de voir que ce petit logiciel à la base fait pour s'amuser est devenu un peu plus sérieux et très répandu sur la Fétiverse.
Et aussi, si j'ai bien m'abuse, il sert de base à Mobilizon.
C'est ça, la partie de fédération de Pléroma est utilisée dans plusieurs logiciels. Mobilizon, il y a aussi Moodle qui a repris la base. C'était très marrant d'ailleurs parce qu'ils avaient forqué, remergé les sources et reforqué le fork. Enfin, c'était un peu un gros bazar ce qu'ils avaient fait.
Et donc, pour une novice comme moi, ça fait quoi exactement? Puisque j'entends des mots, je connais Mobilizon un petit peu de nom, mais ça fait quoi exactement?
Alors, si on parle d'ailleurs de Pléroma, Pléroma est un logiciel qui permet qui ressemble beaucoup à Mastodon, sauf qu'il n'est pas le cœur de fonctionnement. Enfin, il utilise le même protocole ActivityPub, mais le cœur du logiciel fonctionne différemment de Mastodon et il est en général connu pour être beaucoup plus léger.
C'est ça, c'est un logiciel de microblogging comme Twitter par exemple.
Ok.
Mais version décentralisée et fédérée.
Ok.
Et libre.
Mobilizon, lui, est un logiciel pour créer des événements du type Meetup.
C'est le meilleur résumé que j'ai eu, c'était un mélange entre Meetup et les événements Facebook.
Voilà, et tout ça, bien sûr, fédéré aussi par le protocole ActivityPub. Ce qui fait que ActivityPub, qu'est-ce que ça permet? Ça permet à tout un tas de logiciels, tous différents, de dialoguer, d'avoir une interface commune pour dialoguer et surtout se fédérer.
D'accord.
Et du coup, c'est un petit logiciel qui se veut bien plus léger. Et personnellement, je pense m'en installer une instance parce qu'il a l'air plus facile à installer et plus facile à maintenir surtout.
C'est ça, j'en ai une et ça casse pour se dire presque pas, c'est arrivé parce que j'ai fait l'andouille avec mon serveur, bon ça c'était normal, mais ça se relance facilement, ça en une commande et c'est bon, c'est relancé.
Donc voilà, côté news, qu'est-ce qu'on avait d'autre?
Le Libre M5 qui commence à être livré, le téléphone fait par la société Purism aux États-Unis.
Alors... Qu'est-ce que Purism déjà et qu'est-ce que le libre M5?
Alors Purism est une société américaine qui produit des ordinateurs, enfin des appareils électroniques, ordinateurs, etc., qui se veulent pour la vie privée, privacy en anglais, où on peut par exemple désactiver la caméra, le Wi-Fi, le microphone, pour être sûr que l'ordinateur ou le téléphone ne puisse pas espionner l'utilisateur. Et ils ont lancé il y a 2 ans ou 3 ans maintenant le financement participatif du Libre M5, qui est donc un téléphone sur lequel il y a des interrupteurs physiques pour pouvoir couper les différents capteurs, afin d'éviter que l'utilisateur partage des informations qu'il ne veuille pas.
Alors oui, je rebondis là-dessus parce que justement j'ai lu, je ne sais plus où, cet après-midi quand je regardais un petit peu les fils d'informations, les liens qu'il y avait justement pour la préparation de la radio. Et alors, je ne sais plus où j'ai lu ça, mais je pense que c'était en étant sur le Framablog, qu'il y avait donc par rapport à l'espionnage des téléphones, il y avait dans les publicités qui passent à la télé, il y a des petits bruits, des sonorités qu'on n'entend pas, des émissions de sons que nous on n'entend pas, qu'on perçoit pas, mais qui sont perçus par les téléphones et qui peuvent permettre d'associer le téléphone, la personne et ce qu'elle est en train de voir comme publicité. Je trouvais ça parfaitement hallucinant déjà. Voilà, donc effectivement c'est intéressant d'avoir un téléphone qui ne fasse pas n'importe quoi.
Et ça, il y a oui. le livre M5 a trois interrupteurs. Si je me souviens bien, il y en a un qui permet de tout couper, qui est le port USB, la caméra, le microphone et toute émission d'ondes. Un qui permet de faire, par exemple, haut-parleur et microphone, et un dernier, uniquement les ondes hertziennes. Donc pour avoir un contrôle plus fin sur ce qui est fait. Et je pense que tu racontais me rappelle quand on navigue sur certains sites et qu'on fait partager, on peut se retrouver avec des paramètres HTML, enfin dans l'URL, qui sont même normalisés, qui sont les paramètres UTM, et qui permet au site sur lequel on se rend depuis en partage de savoir qui a partagé, d'où on vient et avoir pas mal d'informations pour mieux pouvoir traquer les personnes. Il existe des add-ons Firefox pour pouvoir retirer et nettoyer toutes ces URL.
Ok. Mais ça fait beaucoup d'add-ons Firefox. Au bout d'un moment, si on veut faire.
C'est le web qui devient de plus en plus pourri d'un certain
pollué, ouais. C'est ça.
Un jour, peut-être que des hackers issus sûrement du coup du logiciel libre nous trouveront un autre protocole réseau, réinventeront la roue pour pouvoir justement s'extraire de toute cette surveillance panoptique.
C'est déjà le cas. C'est déjà ce qu'a fait Framasoft avec tous ces services pour dégoogliser Internet. Mais je pense qu'on en reparlera.
Un peu plus tard, exactement. Dans l'actualité, je pense
qu'on peut toujours enchaîner sur Framasoft.
Exactement, Framasoft qui a annoncé la déframatisation d'Internet.
C'est ça, chose un peu marrante parce qu'il promeut la dégooglisation d'Internet. Et quelques années plus tard, 15 ans après la création de Framasoft, ils annoncent la déframatisation d'Internet. Donc, assez ironique en soi, mais ce qui est un peu normal parce qu'ils ont été créés justement pour éviter les GAFAM qui sont de plus en plus grosses. Et les gens passent sur Framasoft. Sauf que si tout le monde quitte les GAFAM pour passer sur Framasoft, ben c'est un peu idiot et on se retrouve avec un Framasoft qui devient énorme. Et même eux n'arrivent plus à gérer comme ils sont qu'une association, si je me trompe. Certes avec des employés, mais ils n'arrivent plus à gérer toutes les personnes et tous les services qu'ils mettent à disposition.
Et ça va simplement à l'encontre de ce qu'ils cherchent à faire. Ils cherchent à faire en sorte que les gens se réapproprient l'Internet, qu'il soit utilisé pour ce pour quoi il a été prévu, c'est-à-dire partager de façon égalitaire l'information. Et en fait, ils deviennent quelque chose de très centralisé.
C'est ça. Donc, ils ont annoncé sur leur site ou leur blog la liste des services qu'ils allaient ne plus mettre à disposition, par exemple Framadrop et Framapic, il me semble, des services qu'ils allaient conserver, et des services, je ne me souviens plus, des services qu'ils ont prévus où ils sont pas vraiment certains s'ils vont les garder ou non à disposition. Des gens, pour citer par exemple Framapiaf, qui est leur instance Mastodon, et Framagit, qui est leur GitLab.
Et oui, beaucoup de toute façon, parce que, en fait, on va l'aborder dans un peu après, mais le principe, c'est leur principe, à un moment donné, ils ont eu, il y a eu Framasoft, favoriser les logiciels libres, ils se sont aperçus que le nerf de la guerre était ailleurs, ils ont créé Framasoft, proposer des services web pour contrer les GAFAM, ensuite il y a eu Framasoft, les chatons, pour permettre à des personnes de devenir acteurs, de mettre en place de l'infrastructure pour partager cette infrastructure avec d'autres, et leur permettre d'accéder à des services décentralisés.
Et aussi d'avoir des acteurs proches de chez soi.
Proches en qui on a confiance.
Et qu'on peut même rencontrer si on le souhaite.
Voilà, et du coup, se déframatiser, c'est peut-être aller vers les chatons.
C'est ça, c'est même ce qu'ils conseillent à la fin de leur article, où ils conseillent les gens d'aller chercher sur chatons, justement des chatons qui sont proches de chez eux pour pouvoir les aider à se développer et déframatiser Internet.
Et pourquoi pas, pour ceux qui sont plus motivés que les autres, apprendre à administrer ces outils pour pouvoir proposer, devenir acteur auprès des autres et partager sa connaissance.
Ou même l'être à sa simple échelle, ce qui est déjà pas mal, avec par exemple la brique Internet.
Et YouNoHost.
C'est ça.
Oui.
Chose que l'on peut venir découvrir ici.
Oui, je pense que... Alors, je ne sais pas si...
chez Girol, je parle.
Ah oui, tu parles chez Girol, parce que j'ai fait l'expérience de la brique Internet. Bon, à l'heure actuelle, la brique Internet à la maison, c'est plus qu'une brique. Donc, on a quand même eu pas mal de galères. Il y a quand même quelques soucis, je pense, au niveau du concept qui n'est pas encore totalement, on va dire...
sec.
C'est un petit peu... Voilà, c'est... Je pense que les concepteurs pensaient que c'était facilement abordable par le commun des mortels, mais pour Madame Michu, c'est pas forcément évident. Et notamment parce que c'est tout passe par YouNoHost et que tout n'est pas calé de suite et enfin n'a pas de forcément de.
Ça demande un minimum de connaissances. Avant
voilà,
de
et puis voilà, quand il y a des. Nous, on a eu affaire à un problème de changement de version, de je ne sais plus trop quoi, et tout a planté, il n'y a plus rien qui fonctionnait. Donc là, il faut remettre les mains dans le cambouis, c'est vraiment pas évident. Quoi.
Oui, ce n'est pas un problème de fiabilité ou de choses qui ne fonctionnent pas, c'est à un moment donné, tu as rencontré un problème qui t'a semblé insurmontable.
C'est pas. Ça demande de la technicité. Voilà. Ça demande de la technicité.
Ce n'est pas une solution clé en main.
Nous avons entendu le bruit de démarrage d'un ordinateur sous Windows en fond sonore.
Windows 7 plus précisément.
Exactement.
Qui est le coupable ? Qui se dénonce ou...
c'est pas Je pense grave. Savoir qui c'est, mais je ne ferai pas d'élation en disant que c'est Adrien. Mince.
Non, c'était juste une petite coupure.
Ce n'est pas grave. Donc, puis, de toute façon, les logiciels libres fonctionnent aussi sous Windows. Hein.
Oui, tout à fait.
Hein, on va pas non plus...
Mais...
Windows n'est pas un logiciel libre.
Non, en soi, il ne l'est pas. Mais on peut faire tourner un Firefox dessus. Soyons positifs.
Revenons à nos moutons. Donc, effectivement, à un moment donné, tu as rencontré un problème.
Voilà, bon, c'était juste pour donner un retour d'expérience sur la brique Internet. Et je pense qu'il y a des choses qui sont améliorables. À l'époque, on en avait discuté, je pense, avec Clémence. Et c'est vrai que les utilisateurs, par exemple, ici, chez Aquilonet, ne sont pas des gens qui utilisent forcément la brique. Ils sont capables de monter leur propre système et leur propre... Voilà. Utiliser un Raspberry, etc., faire des choses plus...
Il faudrait un jour qu'on invite un Gorgodzilla à revenir vers nous quand il aura le temps. Et je sais qu'il a longtemps utilisé YouNoHost, il l'utilise peut-être encore, et ça serait la bonne chose à aborder avec lui. Mais il est administrateur système.
Le truc, c'est qu'il y a plusieurs possibilités avec cette brique, et je pense que ceux qui sont vraiment intéressés, peut-être, c'est ceux qui veulent héberger leur propre mail, etc. Nous, ce n'était pas le cas. On voulait juste faire quelque chose de très simple avec, mais pouvoir connecter plusieurs ordinateurs pour le VPN, par exemple. Tu vois. Mais voilà, on s'est confronté à des problèmes de version qui ne concordaient pas. Et du coup, on a mis un temps fou à comprendre ce qui se passait déjà. Et voilà, c'était juste pour...
En tout cas, les gens qui sont intéressés peuvent venir au collectif Girol et on peut en discuter.
Je dis pas que la brique Internet n'est pas une bonne chose. C'est une très bonne chose. Après, il faut voir que les utilisations, pour quelles utilisations, en fait, elle est meilleure que d'autres, je pense.
Nous allons faire une petite coupure musicale et justement, nous allons embrayer sur les chatons. Rappelez-vous que Dupontin a dans l'idée d'ouvrir son propre chaton à Bordeaux, enfin dans la région bordelaise.
Miaou.
Miaou. Et du coup, il va nous faire un petit retour, parce que ça fait longtemps que tu ne nous en as pas parlé.
Et c'est pour une certaine raison.
Et c'est exactement pour une certaine raison. En attendant, je vous propose une petite pause musicale. Alors, rien de nouveau cette fois-ci, on recycle des vieux titres que l'on vous a déjà servis. Je vous propose C418,
Bravo.
I Can't Afford Mastering, de l'album Life Changing Moment, Sin Minor in Picture. Et on revient après les 3 petites minutes 50. A tout à l'heure sur Radio Girol. We'll be right back.
tu attends 20 heures pour finir ta radio et un petit quart d'heure avant de partir à ta tournée, tu vas être rapide. Sinon, il faut voir des choses magnifiques que tu fais déjà. Pas mal occupé. C'est ça, c'est toi. Il a de la sueur sur le front.
Et oui, vous nous écoutez aussi sur Radio Station Essence. On fait d'ailleurs un petit coucou à Guzel au passage.
Hello.
Alors, on parlait de Framasoft et des chatons. Et du coup, on va prendre un peu des nouvelles du chaton du Ponin. Alors, parle-nous un peu de ton chaton. Où est-ce que ça en est?
Alors, mon chaton, après environ 8 mois, il me semble que c'était la première fois qu'on en parlait.
Oui, on en a parlé un peu entre-temps, mais oui, ça remonte un peu.
On a commencé il y a à peu près 8 mois. Et pendant tout ce temps, ça n'a pas beaucoup avancé pour une simple raison, c'est que je cherchais un nom de domaine. Parce que le nom de domaine fait partie des choses extrêmement importantes à trouver pour un projet.
Donc il y a 3 jours, j'ai enfin trouvé le nom de domaine et je l'ai réservé.
Et alors, est-ce que c'est un secret de Polichinelle ?
Ce n'est pas un secret, mais je le révélerai une fois que ça sera un tout petit peu avancé. Comme ça, je pourrai donner en même temps le lien. Et les gens pourront le regarder sur le site internet, qui sera pas très beau, mais fonctionnel.
Et alors du coup, dans ta recherche de services à proposer, où en es-tu ?
J'ai quelques idées de services. Pour moi, c'est un peu incertain, mais j'ai des petites idées. J'ai pensé à faire un petit cloud pour que les gens puissent mettre leurs données ou non, voire même proposer un service de sauvegarde. En tout cas, moi, comme j'ai beaucoup de stockage dessus et que je m'en sers en serveur de sauvegarde, je pense pouvoir le proposer aux gens. De l'hébergement web, parce que pourquoi pas, si les gens veulent un petit site web, ça peut être marrant. Du mail, pour comme ça, je vais pouvoir prendre mes choses plus sérieusement, parce que le mail, c'est marrant, mais ça va 30 secondes. Du coup, comme ça, ça donne pas envie, mais en fait, c'est très marrant, le mail. Et pourquoi pas, par exemple, un pléroma, ça peut être sympa aussi.
Voilà. Et du coup, sur le capot, j'ai entendu dire que tu étais en train de te mettre à LDAP de façon extrêmement sérieuse pour m'autoriser, pour être la base de tes utilisateurs.
C'est ça. J'ai prévu de faire un LDAP avec pourquoi pas un service d'authentification unique. Comme ça, les gens auraient uniquement à s'authentifier une seule fois et on pourra accéder à tous les services. Un peu comme ce qu'il y a déjà sur Unhost.
Exactement. Donc du coup, maintenant, dans combien de temps on se donne rendez-vous pour continuer à parler de ton chaton ?
Normalement, le mois prochain sera pas mal avancé. En tout cas, c'est ce que j'espère. Donc je propose que le mois prochain, comme ça met un peu de stress et je vais avancer dessus.
Ok, donc on prendra du coup des nouvelles du chaton du Ponin dont il ne faut pas dire le nom, un peu à la Voldemort.
Toi, tu ne connais pas le nom, donc...
Ah ben oui, sinon je l'aurais déjà cafeté.
Oui.
Du coup, le mois prochain. En attendant, on va parler un peu du Fairphone numéro 3. Parce qu'il vient de sortir aussi. Il était prévu déjà, certains journalistes y avaient eu accès au mois de mars. Et ça y est, c'est une réalité. Alors, le Fairphone, pour parler simplement, c'est un téléphone qui se veut le plus équitable possible, un peu comme on a du café Fairtrade ou du chocolat Fairtrade. On a le smartphone Fairtrade. Alors, le discours est un peu plus édulcoré qu'avant, puisque si avant, ils se targuaient de tout vérifier, etc., ils ont bien vu que ça tenait pas, que c'était pas possible et que ce n'était que des promesses en le vent et que les gens n'étaient pas dupes. Donc il n'est pas entièrement fair trade, mais pour les certains éléments principaux, notamment les métaux rares, ils s'assurent de leur filière un maximum. Et voilà, nous avons alors bien entendu, le Fairphone est un téléphone qui est plus cher que ses compagnons.
Que ses concurrents de même gamme.
Voilà, que ses concurrents de même gamme, de l'ordre pratiquement du double, puisque le Fairphone est proposé à un prix de 450 euros. Pour ce prix-là, vous pouvez acheter un OnePlus 7, par exemple. Alors, pas le dernier des OnePlus, mais voilà, avec 128 Go de stockage, 6 Go de RAM. Alors que là, on a un téléphone qui est un peu plus petit. Il propose, 64 gigas de stockage et 2 ou 3 gigas de RAM de mémoire. Vous avez un téléphone qui n'est pas plein cadre. Hein. Maintenant, la mode est au téléphone où l'écran fait toute la face avant.
Un gros ratio de RAM.
Voilà, avec jusqu'à 90% effectivement de la face avant.
90, c'est faible, c'est plutôt du 94 voilà. En général.
Là, non, pas du tout. Hein. Il arbore les bandes noires au-dessus et au-dessous, même si sur chaque côté, la bande est extrêmement faible. Donc, on n'a pas du tout un téléphone à la mode. Par contre, on a un téléphone qui peut être réparé. Et ils disent assurer le suivi pendant au moins 4 ans, c'est-à-dire la disponibilité de pièces détachées du téléphone pendant au moins 4 ans.
4 ans, ça reste un peu faible pour quelque chose qui se veut
alors
remplaçable.
Ça reste effectivement un peu faible, mais d'un autre côté, c'est dans le monde du téléphone qui est tout le temps en mouvement.
4 ans est correct.
Samsung sort des téléphones plus une fois par an. On change pratiquement maintenant de gamme. Un peu moins. Le renouvellement, le passage d'une gamme à une autre, et c'est pas tout à fait un an. Par moment, Huawei, par exemple, sort des téléphones toute l'année, tout le temps. Là, on a un téléphone pour 4 ans. Donc, et avec un suivi logiciel aussi. Ils essayent d'assurer un suivi logiciel.
Qui se veut aussi comme le matériel éthique et à pas balancer toutes les données. Il me semble qu'il n'y a pas le Google Play Store par défaut.
Si, apparemment, si, puisque là on voit une capture d'écran, il y a les outils Google, mais étant donné que le système est ouvert et on peut trouver des systèmes alternatifs comme Lineage OS qui permet d'installer.
Oui, il n'est pas verrouillé logiciellement pour empêcher d'installer autre chose.
Exactement. Et du coup, le matériel se veut modulable et on peut changer facilement l'écran pour 90 euros, si je me souviens plus bien, l'écran pour 90 euros, la batterie pour 50 pour 30, l'appareil photo pour 50 euros, et il sera peut-être même possible, comme ça avait été le cas avec le Fairphone 2, d'ici un an ou deux ans, de pouvoir changer juste l'appareil photo pour en avoir un de meilleure qualité avec un meilleur nombre de pixels.
Il est upgradable.
Il peut s'avérer, son côté modulaire peut le rendre effectivement upgradable. La promesse de le réparer facilement est tenue. Elle est un peu moins tenue. Enfin, la promesse était un peu plus alléchante. Au départ, on disait pas d'outils. Maintenant, il faudra des outils quand même. Il faudra des vissés. Personnellement, je pense que effectivement, c'est un compromis acceptable. Si j'essaie là de démonter mon OnePlus 6, ça sera pas du tout possible parce que tout est collé. Là,
Xiaomi, c'est limite pire, je pense.
Voilà. Mais... et du coup, là, non, tout est vissé et on peut changer les éléments un à un. Voilà. Le Monde a eu accès. Du coup, il y a un très bon article sur Le Monde dans la catégorie Pixel. Ils ont eu accès effectivement à un Fairphone. Ils ont pu tester notamment l'appareil photo qui est de bien moins bonne qualité que les concurrents, notamment le Huawei Mate. Mais le Huawei a trois capteurs différents au dos pour prendre des photos les plus lumineuses possibles, quand le Fairphone n'en a qu'un seul. Même s'il note que la différence de qualité entre le Fairphone 2 et le Fairphone 3 est impressionnante.
Après, n'oublions pas que dans le monde téléphone, la qualité se fait aussi beaucoup du point de vue logiciel. Ou par exemple, Red, la marque de caméra extrêmement réputée, donc de caméra numérique, a sorti un appareil photo, enfin un téléphone, et son capteur, enfin ses photos étaient très décevantes comparées à des concurrents de chez Samsung, Apple ou OnePlus. Or, ils font les meilleures caméras du marché, pour ainsi dire.
Effectivement, il y a aussi le logiciel qui compte beaucoup et on le voit, la partie logicielle de la photo de l'iPhone mobilise beaucoup d'ingénieurs. Mais effectivement, je pense que Fairphone n'a pas les équipes pour pouvoir développer, pousser plus l'appareil photo. Et je pense que le fait d'avoir un capteur à la place de trois, quand le mat peut servir un capteur spécialisé pour faire du noir et blanc, un pour faire la couleur et un pour je ne sais pas quoi, Fairphone doit se débrouiller avec ce qu'il a. Malgré tout, le concept est intéressant dans une période comme la nôtre dans une époque pardon comme la nôtre où l'écologie devient le centre et on s'aperçoit que si on continue à consommer et à jeter nos produits électroniques comme on le fait déjà, on condamne nos enfants et nos
c'est déjà le cas, mais on peut ralentir cette vite.
C'est ça.
Cette vitesse.
Mais effectivement, le prix peut rester un frein, comme le souligne le Monde, notamment un téléphone. Le processeur qui motorise le Fairphone 3 se trouve habituellement dans un téléphone entre 150 et 200 euros. Donc c'est un téléphone au niveau du processeur par exemple bas de gamme. L'écran est de très bonne facture. Par contre, il note un écran de très bonne facture, mais ça reste un téléphone qui est cher. Et il est cher, on sait pourquoi, parce qu'il
il y a... bien rémunérer les personnes qui...
Exactement.
Ça, c'est une problématique que tu vas retrouver pour tous les types de produits Fairtrade, de commerce équitable, hein, ou même bio, forcément, parce que tu vas respecter des règles qui sont plus élevées en termes de...
Alors, pas forcément. Il est tout à fait possible. Je sais que je me fournis, moi, au marché des Capucins, pour les œufs, par exemple, ou le lait, à une productrice et je paye même beaucoup moins cher mon lait.
Parce que là, tu es directement au producteur.
Exactement.
Avec un téléphone intermédiaire.
Si tu devais faire ton téléphone toi-même, peut-être qu'effectivement, ça serait moins cher.
Il serait beaucoup plus gros.
Mais pour le faire.
Exactement.
Ça serait même beaucoup plus cher pour avoir des qualités.
Oui, c'est sûr. C'est
infaisable techniquement. On n'a pas voilà. En tout cas, c'est une bonne initiative et qui mérite qu'on s'y emploie. Malheureusement, quand j'ai cassé mon téléphone, le Fairphone 2 était en fin de vie, on ne trouvait plus les pièces. Ils ont eu des problèmes d'approvisionnement de pièces avec le Fairphone 2. Beaucoup de gens ont râlé parce qu'ils ne pouvaient pas le réparer parce que les pièces n'étaient pas disponibles. On me dit dans l'assistance que ce n'est pas vrai. Il y a eu beaucoup de posts sur les forums en... et du coup, le Fairphone 3 n'était toujours pas disponible. Donc, je me suis rabattu sur la concurrence, sachant que mon ancien téléphone, j'ai gardé 4 ans et demi. Donc, ça reste la durée de vie du Fairphone.
Fairphone 3.
Oui, Fairphone 3, pardon, autant pour moi.
Et donc, où est-ce qu'on peut le trouver, le Fairphone ? Parce qu'il me semble avoir vu passer Orange, mais peut-être que je me trompe.
Oui, Orange le propose, le proposait, le Fairphone 2, le Fairphone 3, je ne sais pas. Mais pareil, acheter un téléphone équitable et l'acheter chez Orange, personnellement, ça me poserait quelques petits soucis.
C'est sûr.
Contradiction. Mais bon, voilà.
Ou chez SFR aussi, je serais un petit peu, ceci étant dit, il est sûrement possible de le commander en ligne sur le site de Fairphone directement.
C'est sûr. Mais bon, je veux dire, nous on sait, on est dans un environnement qui fait qu'on est très... très aguerri sur les sujets de la liberté, etc., sur le respect des normes sociales, environnement. Mais la plupart des gens qui ne baignent pas dans nos technologies de geek vont peut-être, en étant amenés à changer de téléphone, vont peut-être tomber dessus parce qu'ils vont chez Orange ou chez SFR regarder ce que leur fournisseur d'accès leur propose. En général, il leur propose de changer de téléphone, de changer de forfait, etc. Donc voilà, ça peut aussi...
C'est un argument économique. Et c'est alors, on pourrait en discuter plus longuement, mais ce n'est pas le but de cette émission. Mais on pourrait parler effectivement que de toute façon, le capitalisme pousse les gens à la consommation et pousse votre opérateur à vous proposer un nouveau téléphone tous les ans ou tous les deux ans pour vous capter, vous engager. Et du coup, c'est tout le problème de la société de consommation qui veut nous entraîner à consommer beaucoup plus chaque fois pour s'engraisser, pour engranger des profits.
Sans croissance, pas de profit.
Exactement. Et pas de capitalisme. Le problème, c'est qu'avec de la croissance, on court à notre perte.
Croissons vite.
Je vous propose de passer directement à l'autre sujet qui concerne aussi le hardware, à savoir un ordinateur modulable, toujours dans un ça s'appelle Open Computer version 0.1 et c'est le nom d'une dépêche parue sur linuxfr.org. C'est Open Computer version 1.0, preuve de concept d'un ordinateur portable modulaire sous GNU Linux. C'est apparemment, alors si j'ai bien compris l'article, ce sont des étudiants strasbourgeois, des étudiants entrepreneurs qui ont décidé de créer un ordinateur modulaire qui serait facilement réparable par son propriétaire. Et on entend par facilement réparable, avec la possibilité d'avoir des éléments façon Lego que l'on pourrait déboîter et remboîter pour pouvoir changer le SSD, changer l'écran, changer le clavier par exemple. C'est un très beau projet, effectivement, sur le papier, il faut être qui n'est pas sans poser de problème. Beaucoup ont essayé, on a souvent parlé sur Radio Girolle.
Oui, c'est vrai.
Voilà, et personne n'y est arrivé parce que, en général, qui dit ordinateur modulaire dit pièces qui doivent s'assembler, dit épaisseur supplémentaire, poids supplémentaire, et du coup, on perd les avantages d'un ordinateur portable. Ceci étant dit, le projet n'en est qu'à ses balbutiements, il y a déjà pas mal de recherches de fait. L'article explique effectivement la démarche de ces étudiants. Qui sont 6 apparemment et qui travaillent donc à Strasbourg, qui se font aider par le Fab Lab de l'université de Strasbourg à monter leur projet. Ils ont déjà des éléments qui fonctionnent. Je vous invite à aller voir la dépêche Linux qui est très intéressante et qui les montre au travail. Et du coup, personnellement, moi, je vais suivre le projet de près parce que c'est relativement intéressant.
Et oui, je pense que ça sera à suivre, en effet, s'ils arrivent à sortir un vrai portable.
Ils ont déjà, ils ont déjà pas mal de choses. Ils ont la dalle, ils ont des éléments qui fonctionnent déjà. Donc ça peut vraiment paraître, ça peut être assez intéressant. Donc à suivre.
Après, un peu dans le même genre, bon, c'est pas l'ordinateur, mais c'est la marque Pine 64 qui sort aussi un téléphone un peu dans le même style que le Purism 5, enfin le Librem 5. Qui devrait bientôt sortir, être diffusé.
Le PinePhone.
C'est ça, le PinePhone.
Et il ne sera pas en pain, hein, je vous rassure.
C'est ça.
Par contre, le concept est intéressant, mais il n'est pas là pour la vie privée avant tout, le PinePhone. Surtout, c'est un téléphone de développement qui est pour les enthousiastes et qui peut notamment qui veulent faire tourner d'autres systèmes d'exploitation qu'Android, notamment Postmarket OS.
Selfish, ne pas supporté de base. Selfish OS, oui, Postmarket OS, Ubuntu, qui est seul qui fonctionne actuellement, il me semble. Il y a UbiPort, la version Ubuntu pour téléphone et tablette. Il y a même NixOS qui apparemment est prévu. Bon, je ne sais pas trop pourquoi. Il y a Plasma
mobile, oui,
Plasma
tout à fait.
Mobile. Et
l'avantage du PinePhone, effectivement, c'est qu'il est disponible pour un tarif défiant toute concurrence. Il est à $150. Voilà. Pour un téléphone qui se veut à peu près au niveau caractéristiques techniques, c'est un Samsung J5. Donc 1 giga ou 2 gigas de RAM et un processeur 4 cœurs. Un écran HD, pas full HD, mais HD.
En type C. En 2019,
Un USB type C. Voilà.
Sortie vidéo.
Ils sont disponibles. Enfin, ils sont à un compte Mastodon, Pine 64. Voilà. Pine, en fait, est une entreprise hongkongaise qui fabrique. Je crois qu'ils sont hongkongais, qui fabrique aussi des cartes, des computers.
SBC, des single board computers.
Voilà. Et qui sont par contre bien plus puissants que le Raspi. Et ils fabriquent aussi un ordinateur portable qui est le
Pinebook
2 avec une coque en magnésium, un écran HD et une carte assez puissante avec 4 gigas de RAM et 64 gigas de MMC, tout ça pour $200. Donc ce sont des fabricants de cartes qui fabriquent leur téléphone à destination avant tout des enthousiastes ou des développeurs.
C'est ça.
Voilà. Du coup, je vous propose une petite pause de musicale et nous allons ensuite parler de choses un peu moins drôles. Nous allons parler de reconnaissance faciale et du projet Alicem de notre cher gouvernement de gauche, mais pas trop. En attendant, je vous propose Death Valley Girl, Disco, de l'album Live at WFMU, non, je dis pas en anglais parce que j'y arrive pas, sur Radio Girolle.
écoutes Radio Gilouille.
Et vous êtes toujours en direct du local Aquilonêtre au 20 rue de Toura à Bordeaux et en direct sur Radio Girol et sur Radio Station Essence. Nous atteignons la dernière ligne droite de 10 petites minutes de notre émission de ce soir et nous allons discuter de reconnaissance faciale. Parce que vous savez, il n'y a pas que la Chine dans la vie qui aime la reconnaissance faciale. La France aussi l'aime et elle l'aime parce que effectivement, nous avons toute une ribambelle d'entreprises qui aiment la sécurité, comme Thales, comme Qosmos ou Amesis, par exemple, hein, qui aiment fliquer.
Ça me rappelle des choses.
Voilà, qui aiment fliquer ou vendre à l'étranger des systèmes d'armement, de cyberarmement, pour, par exemple, traquer les dissidents de Mohamed Kadhafi, entre
et
autres,
oui, c'est vrai.
Ou vendre des petits trucs de surveillance internet au Maroc, par exemple aussi. Et on s'est dit que pourquoi pas devenir nos propres clients, ça serait vachement bien. Et du coup, pourquoi pas demander à des entreprises comme Gemalto. Alors, on n'est pas dans l'entreprise française, on est dans l'entreprise néerlandaise, mais qui appartient quand même à Thales, de développer un système de reconnaissance faciale pour pouvoir s'identifier sur les différents sites du gouvernement. Le principe est simple. Vous avez une application sur smartphone. Vous prenez en photo votre passeport. Vous scannez le NFC de votre passeport. Vous souriez à la caméra. Et là, vous êtes, ça y est, identifié. Et on sait que c'est bien vous.
Alors, déjà, rien que d'écrit comme ça, c'est un peu effrayant parce qu'on se dit que quelqu'un qui a le passeport en main et qui a une photo de vous, eh ben, il peut facilement faire
alors non,
le système.
Parce qu'effectivement, le système fait quand même le lien entre la photo et ce qu'il filme.
Ouais.
C'est quand même, les passeports sont maintenant biométriques.
Alors là, je fais confiance aux hackers pour contourner, parce qu'il y a déjà des hackers qui avaient contourné ces principes de
ce
biométrie.
Que j'en ai vu, alors effectivement, on peut de suite, le problème de ce genre de parler de ce genre de choses, c'est qu'on peut très très vite aller dans le fantasme. On va essayer de ne pas taper là-dedans.
Oui.
Je me suis appuyé. On a, je pense, tous lu ici autour de la table l'article de Check News du Check News de
Libération.
De Libération, qui effectivement en parle et l'article est plutôt assez bien fait. Sauf que bien entendu, le ministère de l'Intérieur n'a pas voulu s'exprimer quand ils les ont interpellés à ce sujet.
C'est toujours le cas, de toute façon.
C'est toujours le cas, exactement. Tout ce que l'on peut voir, c'est que on nous refait le même coup qu'avec le fichier TES. Hein, n'oubliez pas que le fichier TES, c'est le fichier des gens honnêtes. On passe ça par décret. On veut pas du tout de débats contradictoires, de débats démocratiques à ce sujet-là. On passe outre le Parlement, on fait ça par décret et on n'en parle plus. On fait ça à l'encontre, contre l'avis effectivement de la CNIL, qui est plutôt très froide à ce sujet. On fait ça contre l'avis d'associations de défense des libertés sur Internet et ailleurs. Mais ça, notre gouvernement est malheureusement...
espère en ignorance.
Oui, voilà.
C'est ça.
Ignorer ces personnes.
Voilà. Mm-hmm. Et le fait est que, moi, de ce que j'en ai vu, ça pose effectivement pas le problème de quelqu'un a mon passeport et il va pouvoir le faire. C'est que l'application va vous demander de faire certains motifs pour pouvoir vous voir votre visage un peu en 3D. Tourner la tête à droite, sourire, froncer les sourcils. Et elle va vous demander tout un tas de choses, toujours les mêmes choses, mais dans un ordre aléatoire. Voilà. Il sera, je pense, très simple pour un hacker d'enregistrer facilement sa proie via un exploit à distance pour pouvoir enregistrer effectivement les différents mouvements et les rejouer via ensuite à sa convenance. C'est pas quelque chose d'impossible. Alors je dis pas que c'est possible, ce n'est peut-être pas possible parce qu'il y a peut-être des garde-fous qui sont mis en place. Mais tel que je vois la vidéo de promotion diffusée par le hacker Elliot Anderson, qui avait déjà divulgué pas mal de choses un peu voilà, notamment sur les téléphones Android, telle que la vidéo qu'il a trouvée, qu'il a diffusée, laisse penser que ça sera possible. L'autre problème, c'est que nous assistons en Europe, malheureusement, à une montée de l'extrême droite dans tous les pays d'Europe, que la France peut servir effectivement de porte d'entrée à la reconnaissance faciale en Europe, et un système d'identification, comme les experts n'arrêtent pas de le répéter, peut être retourné pour devenir un système un système d'authentification, un système d'authentification qui vous permet de vous authentifier sur un service, de dire oui, c'est bien la personne qu'elle dit être, peut être renversé pour devenir un système d'identification. Imaginez des millions de caméras à travers le pays qui sont déjà capables de vous filmer, qui peuvent être connectées à un système qui sera ensuite capable de vous reconnaître, qui peut ensuite être couplé à une base de données de visage, devient un formidable équipement d'identification.
Et c'est très exactement ce que font les Chinois. C'est-à-dire qu'eux, ils sont très très en avance sur le sujet, donc je pense que là, c'est même pas la peine de dire que c'est dans le futur ou des possibilités. Ça existe déjà ailleurs. Donc,
alors notre cher Castaner, qui adore donner des leçons de démocratie en tapant sur les manifestants, vous dira mais nous sommes en démocratie, ma petite dame, ce n'est pas possible. Sauf que, étant donné que toute cette bande de branquignoles depuis maintenant très longtemps gouverne le pays n'importe comment, marche sur la gueule des petites gens.
Tu parlais tout à l'heure de la possibilité d'avènement de l'extrême droite, mais ce qui se passe déjà dans le pays avec un gouvernement qui ne l'est pas, c'est déjà ils utilisent notamment, on sait qu'ils ont utilisé des fichiers qu'ils n'étaient pas censés utiliser quand ils ont arrêté des gilets jaunes. Donc voilà, il y a déjà des utilisations qui sont faites, détournées de toutes ces données qui sont récoltées à droite, à gauche, avec effectivement des passages de décrets.
C'est pas leur but premier de faire ça.
Peut-être toujours en démocratie
ce que je voulais dire, moi, c'est que les prochaines élections, de mon point de vue, il y a une chance énorme.
Tu parles des municipales
énorme.
Ou des présidentielles?
Les
prochaines sont les municipales.
Oui, je pense que les prochaines présidentielles ou les prochaines élections de l'Assemblée nationale, des députés, je pense que l'extrême droite a moyen de faire une percée, puisque en se mettant dans la peau d'un Français moyen, hein, et puis j'ai pas besoin d'aller chercher loin, j'en suis un, mais je ne voterai pas extrême droite, je vous le rassure de suite. Mais les gens voyant passer les gouvernements allant de la droite à la gauche avec toujours le même résultat, rappelez-vous, nous avons vu passer les Républicains, nous avons eu un président horrible nous avons vu passer les socialistes avec un président qui semblait absent, un premier ministre en la personne de Manuel Valls qui semblait bien plus autoritaire que ne pourrait l'être même l'extrême droite. Nous avons vu passer la gauche qui n'est pas vraiment la gauche mais qui est un peu la droite mais pas vraiment et qui est un peu au centre. Ce n'est pas mieux. Il y a des chances que malheureusement...
Il reste plus que les extrêmes actuellement.
C'est surtout des affairistes et des lobbyistes en fait qui sont derrière tout ce corps politique actuel.
Et le jour où l'extrême droite arrivera au pouvoir, qu'est-ce qu'elle fera d'un système pareil? C'est du pain béni, c'est de l'or. Nous sommes en train de brader la démocratie pour effectivement tout un tas de lobbyistes et d'affairistes. Et nous sommes en train effectivement nous sommes une bien belle porte d'entrée pour l'arrivée de la reconnaissance faciale en Europe. Sachant que la ville de San Francisco, elle, en même temps, a totalement interdit la reconnaissance faciale elle la restreint drastiquement pour beaucoup d'usages, dont l'usage policier.
Bon, il ne reste plus qu'à émigrer à San Francisco. Hein.
Les prix des loyers, je pense
ça va être compliqué.
Du coup, est-ce qu'on peut dire que la reconnaissance faciale va se démocratiser?
Éventuellement, nous pouvons le dire. Mais c'est un débat qui fait très peur.
Oui, enfin,
il faut suivre
c'est pas fini, quoi.
Avec attention.
Et du coup, oui, c'est encore le moment d'aider à financer la quadrature du net, pour que nous aussi, au Parlement français, au Parlement européen, nous ayons des lobbyistes pour défendre.
Empêcher ça.
Mais c'est ce qu'ils font déjà. Ils s'inscrivent comme lobby, je crois, au niveau européen, puisque en France, c'est théoriquement pas possible, mais c'est juste de la théorie. Oui, effectivement, c'est une association qui est vraiment très importante pour défendre nos droits.
Exactement. Et il ne faut pas nous-mêmes hésiter à les financer, à aider, parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent, à les financer pour qu'ils puissent porter notre parole et empêcher ce genre de choses qui vont en plus qui vont à l'encontre des bonnes pratiques. Rappelez-vous, pour le fichier des titres sécurisés, le gouvernement disait une base de données biométrique centralisée dans un Fornox numérique, qui a fait rire, effectivement, je pense, tous les administrateurs système et les gens un peu au courant du monde. Et quand la CNIL disait oui, mais pourquoi pas stocker plutôt avec des systèmes de clés asymétriques, par exemple, stocker les informations sur les cartes en elles-mêmes. Oh non, 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 bien sûr que non. Non, non, nous, on aime centraliser. Et on nous refait exactement la même chose. La CNIL va proposer autre chose, va proposer les experts, les vrais experts en sécurité vont proposer autre chose, mais les intérêts économiques de Thales via sa filiale Gemalto vont sûrement primer en disant oui, mais vous allez pouvoir créer des milliers d'emplois pour effectivement fliquer le visage de tous les bonnes gens françaises.
C'est un peu comme la biologie, mais l'écologie actuellement qu'on retrouve avec les grands dirigeants et Greta Thunberg.
Exactement. J'ai pas très bien suivi l'affaire, mais au Conseil national de l'écologie, on fait rentrer une nana dont le métier est de chapeauter une grande compagnie d'extraction minière qui est extrêmement polluante.
Oui, bon, ce serait, mais ça, tu le retrouves dans plein de domaines, et notamment récemment, la Commission européenne qui vient de rejeter la candidature d'une commissaire française qui a des affaires judiciaires en cours et là notre cher président s'est offusqué de ça alors que on lui avait déjà prévenu que ça risquait de pas passer quoi parce qu'on n'a pas de leçons à donner en matière de lobbying parce que cette personne là en dehors d'avoir des affaires judiciaires les assistants parlementaires elle a été aussi en tant que députée elle était aussi rémunérée par un think tank américain directement par un lobby quoi hein, pour parler clairement. Donc oui, ça existe, c'est un peu partout, c'est un peu dans tous les domaines et on n'a vraiment pas plus de leçons à donner en termes de démocratie et d'indépendance quoi.
Surtout que nous sommes l'un des premiers fabricants au monde, comme je le disais en introduction, de cyberarmes et des entreprises comme Amesis qui étaient sous la houlette de
Il n'y a pas que les cyberarmes d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Sous la houlette de Bull et qui était présidée par Philippe Vanier a été vendu au Qatar ou enfin ils se sont retrouvés au Qatar et maintenant c'est Middle East Advanced Middle East System, mais ce sont des entreprises d'origine française qui travaillaient sur le Deep Packet Inspection et qui a permis à des dictatures qui étaient amies jusqu'au moment où elles allaient révéler peut-être un peu trop d'affaires, et des dictatures amies comme celle de Muammar Kadhafi, de pouvoir traquer, torturer et parfois tuer les opposants politiques. Et ce sont des faits qui sont avérés.
Oui, ce sont des faits qui sont avérés, mais comme récemment l'an dernier, les affaires de livraison d'armes à l'Arabie Saoudite, je ne me trompe pas, pour la guerre au Yémen, enfin bon, voilà... C'est business as usual, on a envie de dire. Hein, mais...
C'est des armes d'ailleurs qu'on vendait du coup à l'Arabie Saoudite, mais je vous jure qu'elles n'ont jamais servi à tuer
mais
des
non.
Yéménites.
On a juste trouvé des références dessus là-bas, mais c'est pas grave.
Non, c'est pas. En tout cas, il est l'heure de se quitter. Il est 20h02, nous sommes à l'heure pratiquement.
Et oui, c'est un événement international.
De toute façon, à vous parler de la reconnaissance faciale et de toutes les conneries de ce fabuleux gouvernement dans une prochaine émission. On se retrouvera, nous, au mois de novembre. Ça sera exactement le 13 novembre. Le 14. Soyons précis, le 14 novembre pour encore une heure d'émission autour des cultures libres et de la défense de vos libertés sur Internet avec un petit peu de musique libre. Les intertubes. En attendant, passez tous une bonne soirée. Vous pourrez retrouver cette émission, bien entendu, en podcast très bientôt.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonne soirée.